Alors aujourd'hui, on va parler de politique, enfin de l'archéologie reprise à des fins politiques. Souvent, l'archéologie a été reprise pour la politique, pour pouvoir asseoir un discours pas toujours très en accord avec ce que nous on trouve. Mathéo, je te laisse commencer.
Dès les temps les plus anciens, en fait, l'archéologie va être reprise à des fins politiques. Donc on a par exemple Nabonide, un roi de Babylone entre 556 et 539 avant notre ère, qui fait reconstruire un des temples de son prédécesseur. En fait, alors il y a évidemment un but, comment dire, cultuel et culturel derrière, mais aussi un but politique. En fait, il veut conserver donc la mémoire du temple, mais aussi ça permet de s'aligner dans la trame politique et de suivre celle préalablement instaurée, donc de son prédécesseur. Par exemple, on peut aussi parler au Moyen-Âge. La statue équestre de Charlemagne, donc nous on en parle beaucoup en cours, donc on ne sait pas forcément si c'est Charlemagne, mais bon, on va dire que les plus grandes théories sont sur ça. En fait, on suppose en fait qu'elle est copiée sur le modèle antique de celle de Marc Aurèle. Donc en fait, en faisant cette statue équestre, Charlemagne veut coller à la tradition politique de l'Empire romain. Voilà, et donc je vais laisser Aurélie nous parler de l'archéologie. Donc est-ce que c'est est-ce que ça peut servir du coup d'une identité nationale?
Donc on a pas mal d'exemples au 19e siècle, même au 20e siècle, de politiques qui reprennent des faits archéologiques pour s'appuyer dessus et construire, on va dire, l'identité d'une nation qui du coup n'est pas forcément vraie. Par exemple en France, on a la récupération par Napoléon et après plus tard pendant la Troisième République et même jusque dans les années 50 des Gaulois. Qui seraient les ancêtres communs de tous les Français. Alors Napoléon, lui, ça va s'appuyer sur les fameuses fouilles d'Alésia dont on vous parle souvent. Donc il va faire des fouilles et il va remonter une histoire qui lui sera propre pour essayer de dire, voilà, les Gaulois étaient là, on s'affilie tous aux Gaulois et ça permet aussi de créer une unité quand il n'y en a pas forcément.
Voilà, donc juste pour préciser, c'est bien Napoléon III, pas juste Napoléon Bonaparte. Donc on a ça en France, mais par exemple dans les pays scandinaves, donc à la fin du 16e, début du 17e, il y a une vraie course au déchiffrement de l'alphabet runique et qui devient en fait un enjeu politique. Par exemple, on a Hallvorm, donc un antiquaire scandinave, donc 1588-1654, qui publie un ouvrage qui s'appelle Publication sur les monuments des Danois. Et en fait, c'est un manuel d'antiquité, et donc c'est un des premiers de ce genre. Dedans, il va proposer une classification logique des antiquités locales, donc par catégorie, et surtout, il va reconstruire des pratiques anciennes danoises avec son histoire, en fait, et à l'histoire de ses contemporains, grâce à du matériel archéologique. Donc c'est une première en archéologie, mais ça permet aussi de servir son propre roman national, en fait.
Oui, et donc dans la construction des romans nationaux, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, il y a aussi en Suisse, on a l'exemple avec les Palafites, donc qui sont des peuples celtiques qui vivent autour des lacs, et donc ça, ils ont beaucoup servi aussi à nourrir l'identité nationale. Et donc après, les concepts politiques, en fait, vont surtout au XXe siècle se mêler avec la notion de culture. Et donc on a un exemple qui n'est pas forcément connu de tout le monde, mais qui, enfin, on le connaît sans le connaître, en fait. Donc c'est Gustave Coscina. Donc un préhistorien et un linguiste de formation. Il travaille sur les langues européennes et d'Iran. Pour lui, toutes les langues descendent d'un peuple qui sont les Aryens. Il va sortir en 1911, pardon, l'origine des Allemands, où il va affilier des peuples anciens grâce aux données archéologiques et linguistiques, et il va créer une carte de répartition. Donc pour lui, le nord de l'Allemagne est le berceau originel des Aryens. Donc de tous ceux qui parlent les langues européennes et iraniennes. À l'époque, son travail est valide parce qu'il rattache une ethnie à un territoire.
Voilà, mais en fait, Cossina, il fait ce qu'aujourd'hui on appelle un biais de méthode. En fait, il sélectionne un type particulier de mobilier pour décrire un peuple auquel il est apparenté en écartant les autres. Imaginons, il va fouiller un site, il va trouver un type de mobilier particulier qui l'intéresse, il va le choisir sans du coup utiliser les autres. Ce qui fait qu'en fait, il fait donc une carte de répartition, comme l'a dit Aurélie. C'est quelque chose qu'aujourd'hui en archéologie, on ne fait pas parce que l'ethnie, c'est un sujet très controversé. Du coup, en fait, Cossina, il va instrumentaliser ses recherches à des fins, du coup, racistes et nationalistes. Et donc, il va même tenter de fournir aux négociateurs allemands, lors du traité de Versailles, des arguments archéologiques qui pourraient appuyer sur le découpage des frontières entre la Pologne et l'Allemagne. C'est là qu'on voit l'importance de l'archéologie dans cette espèce d'identité nationale. Et d'ailleurs, les revendications du Reich se basent d'ailleurs sur les travaux de Cossina, hein. Donc l'aspect supérieur des Aryens sur le continent, par exemple, voilà. Vas-y, Aurélie.
Je voulais juste rajouter que du coup, en archéologie, pour arriver à travailler, il faut qu'on ait conscience des revendications qui ont pu faites et des reprises qui ont pu être faites par des scientifiques, mais aussi, comme disait Mathéo au départ, par Nabodine ou Charlemagne, comprendre qu'à l'époque de Charlemagne, on n'est plus à l'Empire romain, c'est juste des reprises pour être affilié à quelqu'un d'autre. Donc il faut arriver à avoir conscience de tout ça pour ne pas nous faire des biais après dans nos interprétations.
Voilà, donc ça a conclu aujourd'hui et on veut juste rajouter qu'avec l'association, on fait une tombola qui sera disponible jusqu'au 10 décembre. Voilà, des tickets, donc 2 euros pour les adhérents, 3 euros pour les non-adhérents. Et il y a de nombreux lots, donc des vêtements en collaboration avec Arcaïa Création, des lots d'outils, donc truelles, tout ça avec Planète Archéo, des peluches, tout un tas de petits goodies comme ça qui peuvent être super sympas pour avoir une super surprise à... En fin d'année, quoi.
Il n'y a pas de chocolat ?
Il n'y a pas de chocolat, pas encore. Mais c'est une très bonne idée, on n'y avait pas pensé. Et ben voilà, chocolat.
Et quoi comme peluche ?
Comme peluche, ça, je ne sais pas. Aurélie, on en a divulgué ou pas ?
Oui, bah oui. Donc, on a un petit tricératops mignon.
Trop mignon. Voilà.
C'est ça, toujours pour en fait essayer de... C'est plutôt une blague en disant qu'en fait, les archéologues, ils étudient toujours pas les dinosaures. On l'a dit à cette fois, on le répète toujours autant.
Ce sera le fil rouge de cette chronique.
C'est ça.
On n'aime pas les dinosaures, nous, les archéos. Est-ce que vous pouvez rappeler où on peut participer à cette tombola ? Avec qui ?
Alors, du coup, pour la tombola, on a un Hello Asso donc, qui est disponible sur notre page Insta. J'ai pas encore ouvert la billetterie, mais je vais le faire là aujourd'hui. Donc on pourra acheter des tickets là-dessus. Et sinon, on va faire des permanences sur l'université et dans les associations pour pouvoir acheter les tickets en direct.
Voilà, et je pense peut-être, enfin j'imagine qu'on en aura sur nous aussi. Je sais pas, ouais, voilà. Donc si jamais vous nous voyez, enfin si vous savez à quoi on ressemble, mais maintenant sur le bureau, il y a nos photos. Donc voilà, si jamais vous voulez acheter, appelez-nous, secouez-nous, on en aura toujours sur nous, je pense.
Voilà, si vous voyez Mathéo qui a un sweatshirt, un hoodie gris, des cheveux mi-longs, une barbe, une moustache, vous lui courez après.
Voilà, c'est ça.
Et quand il est épuisé, vous lui sautez dessus et vous pouvez lui payer des billets de tombola. Génial.
C'est ça, lancez-moi une Pokéball.
Tu feras gaffe, Léo, tu as décrit 50% des mecs qui sont à la fac.
À montagne, ouais. c'est ça qui est drôle, justement. Merci à tous les deux, on vous retrouve tous les lundis pour Truelle FM où on apprend toujours un nouvel aspect d'archéologie.